Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Emmanuel Combe.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Vous avez coécrit le transport aérien à la découverte, notamment parmi les derniers publiés. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole et Gilles Raveau. Bienvenue Gilles.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis et auteur de Économie, on n'a pas tout essayé, au seuil. 1% de croissance contre 1,4%. Les quatre chiffres à retenir d'hier. Le deuxième chiffre, 4,4% de déficit, comme prévu. Le troisième chiffre, zéro hausse d'impôts. Le quatrième chiffre, 10 milliards d'économies nouvelles pour tenir le cap. Comment fait-on 5 milliards à trouver dans les dépenses de fonctionnement de l'État ? Chaque ministère va devoir gratter, par renouveler un parc de flotte automobile, renoncer à rénover une partie du bâtiment, ou encore faire moins de déplacements, moins de voyages, faire des économies d'énergie, que sais-je. Puis 5 milliards d'économies sur les politiques publiques, 1 milliard venant de l'aide au développement, 1 milliard venant de MaPrimeRénov, dont le budget passe de 5 à 4 milliards d'euros. Il reste 600 millions d'euros plus élevés en 2024 qu'en 2023. 1 milliard de moins pour les opérateurs d'État qui s'appellent Business France, France Travail, Météo France, le CNRS, l'Office National des Forêts, même les universités, Gilles Raveau. Mais enfin, je pense pas qu'on va toucher aux universités malgré tout. Et donc, zéro hausse d'impôts. Vous avez vécu comment la séquence, Christian Poyot, hier ? Courte, hein. Ça a duré sur le journal de TF1, je pense même pas 7-8 minutes, hein, à peine.
Oui, c'est dommage parce que c'est un sujet éminemment structurant. Hein. Ça fait la une de BFM Business. Je suis malheureusement pas sûr que ça fasse la une de vos confrères aussi, alors que c'est un sujet très important. Et c'est un sujet important, pas uniquement du point de vue financier, technique, tout ce qu'on voudra.
Ou les Français... c'est vraiment traité de manière basique et technique. Hein.
Oui, mais moi, ce que j'aurais tellement envie, c'est que les Français comprennent que c'est un vrai sujet structurant de la manière dont on veut vivre, dont on veut se développer, dont on veut faire croître la France. Ouais, c'est pas juste un sujet financier, monétaire, de marché ou tout ce qu'on voudra, etc. C'est le cœur de la manière dont on veut continuer à développer notre pays et la manière dont on veut vivre.
Voilà, mais Fitch et Moody's n'attendront pas qu'on ait mis tout ça en place.
J'entends, mais ça c'était un peu pour placer le débat. C'est pas juste un débat d'experts. Enfin, nous sommes les meilleurs experts de la planète, on en conviendra évidemment, mais c'est un sujet qui concerne monsieur et madame tout le monde. Ça concerne tout le monde. Bon, alors, pas de hausse d'impôts, évidemment, en tant que chef d'entreprise, je vais pas vous dire le contraire, ou en tant que d'ailleurs que citoyen, l'IRPP qu'augmente pas, on est quand même dans les niveaux de taxation les plus élevés au monde, donc... Personne va être contrarié par cette décision, mais elle est quand même globalement de bon sens. Après, que dire que, enfin, on va redire des choses qui ont été dites 100 fois. Les Français sont drogués à la dépense publique. On est assisté surtout. Il y a cette fameuse démonstration. On démarre, on se lève et puis on est assisté sur je sais pas quoi. Toute la journée, on a des aides en permanence. Voilà.
C'est le sketch assez sympathique que camarade François Langlais avait fait sur LCI avec son personnage qu'il avait appelé Pierre Touche-Tout, qui dès l'instant où il se réveille jusqu'au moment où il se couche, quelquefois sans même s'en rendre compte, et sous perfusion d'argent public à tous les niveaux.
Oui. Alors moi, je ne suis pas un expert des finances publiques, donc entre la répartition entre les investissements et puis les dépenses des ministères, effectivement, trouver 5 milliards dans les dépenses des ministères, ça sent un petit peu, ou alors ils vont couper carrément le chauffage, vous me direz, il fait moins franchement, c'est peut-être pas grave, mais bon. Ceci étant, il y a des tas d'endroits dans lesquels l'État peut réduire considérablement ses dépenses. Hein. Ça va autant des choses, les nombreuses agences dont les recouvrements sont pas toujours très utiles, on en parlait en antenne, on démarrait, les aides sur je sais pas quoi, la réparation des vêtements. Enfin, il y a tout un tas d'endroits dans lesquels on pourrait économiser énormément. Maintenant, si on essaye de peut-être d'élargir le débat, le sujet de base, c'est quoi ? C'est qu'on ne travaille pas assez en France, donc on ne produit pas assez de richesses, donc on ne génère pas assez d'impôts sur les revenus, sur les sociétés, sur la TVA, etc. Il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes la base de tout ça, c'est qu'il faut qu'on travaille plus. Vous avez évoqué un sujet qui est la différence de productivité entre les États-Unis et l'Europe. Bah, le principe de base, il est là, c'est que les Américains travaillent plus que nous, donc mécaniquement, ils génèrent plus de richesses. Donc en même temps, on veut être couvert surtout, avoir des protections dans tous les sens, etc. Être les meilleurs du monde sur la partie écologique, c'est plutôt pas mal. Simplement, on construit des normes qui nous pénalisent. Et en même temps, on veut être aidé dans tous les sens et pas d'impôts. Enfin, il faut qu'on sorte de ce paradigme. Donc le gouvernement... Alors ok, là c'est une première décision de façon qui lui est imposée effectivement par les marchés, mais il est impératif que collectivement on prenne conscience de ça et qu'on fasse tous des efforts. Alors des efforts qui doivent être plus ou moins adaptés selon la situation de chacun, bien évidemment, les gens qui sont dans une situation plus compliquée que d'autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais globalement, il faut aller dans ce sens-là. Alors je ne serais pas comme l'éditorial de Bavrez dans Les Échos qui est totalement
catastrophique. Ça y est, le mur de la dette
voilà,
arrive.
Qui est totalement catastrophique. Enfin, c'est une analyse de grande qualité.
Mais il est constant, toujours... Nicolas Bavrez.
Oui, il est toujours.
Le mur de la dette est toujours voilà, à 50
cm. Il faut ouvrir la fenêtre et sauter. Bon, ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a aussi plein d'atouts. Mais encore une fois, la prise de conscience que ce n'est pas un sujet financier et monétaire et technique et théorique, mais c'est un sujet du quotidien est primordial. Voilà.
Bon. Emmanuel Combes.
Non, mais je rebondis sur ce que dit Christian. Il y a l'urgence du court terme. Il n'avait pas d'autre choix que d'annoncer cela.
Donc on est d'accord sur ce
non, mais il
court
a pas d'autre
terme
choix.
Très court. Il y a
le court
pas
terme,
solution.
C'est juin, c'est éviter la dégradation. Hein. Donc on est d'accord. Donc il n'y a pas d'autre levier. Si vous voulez
on
pas.
On veut pas de loi de finances rectificative. Si on veut rassurer tout le monde avant.
Ah oui, si vous voulez pas revenir sur votre promesse qui est de dire j'augmente pas les impôts et que la croissance diminue, bah il n'y a pas 50 000 choses. Il faut baisser les dépenses publiques. Non, je rejoins Christian sur un point, mais ça c'est en effet l'économiste qui parle. C'est que ce qui est important, c'est le long terme, c'est-à-dire les réformes structurelles. Il y a qu'une solution si vous voulez à terme. En effet, ne pas avoir besoin de faire de coupes de dépenses publiques, parce que les Français sont drogués à la dépense publique. Je suis pas sûr qu'on en sorte de la drogue. Mais il y a qu'une solution, c'est en réalité avoir plus de croissance. Et là, on rejoint toujours les mêmes sujets, qui est le problème des gains de productivité. Il n'y a pas de gains de productivité en France. Et on connaît les solutions.
On les perd même.
On connaît les solutions. Alors moi, je mets l'accent sur une de ces solutions.
Mettez-moi une petite solution. J'aime bien quand on.
Parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais on voit bien les réformes structurelles en matière de concurrence. Ça fait 15 ans qu'on en a pas fait. Ou s'il y a eu la loi Macron en 2015, j'exagère.
C'était
il y a 9 ans. Mais les grandes réformes structurelles de concurrence, c'est quoi très concrètement? C'est pas seulement déverrouiller des marchés, c'est typiquement les conditions de diplôme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de diplôme pour exercer certains métiers. Il y a une question de proportionnalité. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Vous avez énormément de métiers, notamment manuels, dans lesquels les normes ne sont plus adaptées aux besoins. Donc ce grand toilettage-là, le problème c'est quand vous faites un toilettage, vous allez toucher à des rentes. Vous voyez bien qu'une barrière, ça empêche à des nouveaux de rentrer, ça protège ceux qui sont déjà là. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec la loi Macron 2, qui prévoit un volet concurrence. Je prends un exemple qui est anecdotique. Je vous dis pas que c'est avec ça qu'on va sauver la France, mais le permis de conduire.
Oui.
800 000 personnes chaque année. Ben, au milieu, le permis de conduire, ça permet à des personnes qui sont éloignées du marché du travail d'accéder à l'emploi. Donc, c'est un sujet anecdotique, mais vous multipliez comme ça les réformes sectorielles pro-concurrence, que j'appelle pro-concurrence, c'est ouvrir les marchés. Hein, ça veut pas dire qu'il faut pas déréguler, hein. Il faut mettre des régulations proportionnées. Et là, vous aurez un impact sur la productivité. Pourquoi? Parce que la productivité, ça dépend de quoi? Ça dépend notamment de la capacité d'une personne à quitter un emploi en déclin pour aller vers une entreprise en croissance. Ça s'appelle les réallocations intersectorielles d'emploi. Et qu'est-ce qui fait qu'on bouge? Que le logement, on en trouve facilement, autre problème, qu'on ait un permis de conduire, etc. Donc vous voyez, toutes ces réformes structurelles, à terme, ça fait des gains de productivité. Mais je rejoins Christian, c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Donc en fait, on paye aujourd'hui finalement notre manque de réformes structurelles.
C'était, vous parliez des barrières qui nuisent à la politique de la concurrence, souvent barrières souhaitées par des rentiers, c'est exactement la thématique qui était mise en lumière par Marc Vigneault de l'Opinion vendredi ici même, et c'était assez vrai quand même.
Et complètement.
Monsieur, passer en troisième, Gilles, ça peut être sympa, ça peut être compliqué.
Je suis scandalisé, monsieur Dos, d'habitude. J'ai droit à ma conférence inaugurale quand j'arrive ici, bon, je ne sais pas ce qui se passe.
Bon.
Vous êtes chafouin ce matin,
Gilles. Non.
Non, alors juste, je vais faire mon petit prof. Moi aussi, même pendant les vacances.
Je ne suis pas petit prof, je suis juste économiste.
On va faire les révisions. Donc là, effectivement, c'est un bel exemple. Hein, c'est un exemple vraiment digne de cours ou de manuel première année. Donc petit rappel sur le policy mix, hein, c'est-à-dire la combinaison des politiques monétaires et budgétaires. Vous avez deux cas pour chacune, et donc ça vous fait quatre cases donc, qui vont s'afficher dans le cerveau de nos auditeurs. La politique monétaire soit peut baisser les taux d'intérêt ou les augmenter. Si elle les baisse, c'est favorable à l'activité. Si elle les augmente, c'est défavorable à l'activité. Et la politique budgétaire peut soit être favorable à l'activité, on accroît les dépenses publiques ou on baisse les impôts. Et à l'inverse, la politique budgétaire peut être restrictive. On augmente les taxes ou on diminue les dépenses publiques. Et donc, vous voyez qu'on a quatre cases et donc on peut avoir soit deux politiques politiques très expansionnistes, hein, monétaires et budgétaires, soit à l'inverse, deux politiques restrictives. Et aujourd'hui, on est de toute évidence en Europe, et dans le peu de choses qu'a dit Bruno Le Maire hier, il a dit une chose très juste, hein, c'est que la conjoncture est défavorable, mais elle est défavorable pour des raisons très profondes, hein, qui est le niveau très élevé des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, dont on sait qu'ils vont baisser cette année, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas de combien. Et donc ça, pardon, évidemment, c'est une grosse erreur de ne pas l'avoir inclus dans la prévision de croissance pour cette année, puisque ça, on le sait tous, hein, les macroéconomistes, depuis au moins 6 mois, si ce n'est 1 an. Et d'autre part, effectivement, on a ce retour, hein, au niveau de l'Union Européenne, du pacte de stabilité, puisqu'il y a eu des annonces très claires de la Commission Européenne en novembre dernier, qui a mis la France dans les pays qui n'allaient pas tenir ses engagements budgétaires. Et je vous incite à retrouver la presse de novembre 2023, c'est-à-dire il y a quand même extrêmement longtemps, où vous aviez le gouvernement français, Bruno Le Maire, disant « Bien sûr que nous allons tenir nos engagements budgétaires. »
Clairement, il l'a dit comme ça, oui.
La France tient toujours ses engagements budgétaires.
J'ai lu cette phrase.
Voilà, on peut insérer des rires quand on fera le replay.
Donc on va mettre des rires comme dans Béni.
Non, mais vous avez quand même Bruno Le Maire qui a quand même dit à la Commission européenne que la France tenait toujours ses engagements budgétaires auprès de l'Union européenne, alors qu'elle les tient à peu près jamais depuis la création du pacte de stabilité il y a 25 ans.
Ça va mieux en le disant, comme écrivait Télérama.
Voilà. Et donc, puisqu'on est ici pour faire des propositions, et que je suis un garçon responsable et sérieux, extrêmement inquiet effectivement de tout, de l'effondrement de notre pays qu'on constate ici chaque matin, c'est que je propose, et évidemment ça n'arrivera pas, mais qu'il faudrait retirer la prévision de croissance qui est centrale dans le budget chaque année des mains du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une réforme très simple à faire, qui évidemment ne sera jamais faite parce que nous n'avons pas d'hommes politiques et de femmes politiques responsables, c'est de dire, vous faites la moyenne, éventuellement pondérée, des prévisions de croissance des instituts de conjoncture, et des gens intelligents, honnêtes, indépendants, en France, en Europe et dans le monde, vous faites la moyenne de ça, vous faites votre budget là-dessus, et ensuite il se passe deux choses, soit ces gens-là ont eu raison, et vous évitez le truc clownesque d'hier soir, qui n'est que le début d'une longue série. Toute l'année, on va nous entendre. Ça va être la panique pour les agences de notation. Ensuite, ça va être la panique à Bruxelles, au printemps, etc. On va nous fatiguer toute l'année avec des bêtises budgétaires, sans aucune vision d'avenir, comme vous l'avez très bien dit. Parce qu'on n'est pas raisonnable en France, qu'on n'est pas sérieux. Donc, encore une fois, vous faites la moyenne pondérée des prévisions de croissance, des objectifs. Vous le mettez dans votre projet de loi de finances. Je termine, Emmanuel. Merci. Et si jamais ils se sont trompés en bas, et que la croissance est supérieure, tant mieux pour vous. Mais rendez-vous compte à quel point c'est décrédibilisant pour l'ensemble de la politique d'avoir un ministre de l'économie de la France qui vient nous présenter un plan de gribouille fait sur un coin de table par un membre du cabinet en 2 secondes, alors qu'on a des gens très sérieux à Bercy, etc., sur l'évolution de nos dépenses publiques. Voilà ce à quoi on a assisté hier. Je suis désolé, c'est grave.
Retirer à Bercy la prérogative de fixer la prévision. Si on avait fait la moyenne pondérée, comme vous dites, Gilles, on serait pas à 1, mais à 0,8.
Hein. Oui, et bien très bien. Mais pardon, très bien. Justement, dans les dernières informations, je ne sais pas qui a raison, je ne suis pas prévisionniste, mais l'OCDE, la prévision de croissance pour la France cette année, c'est 0,6.
Et c'est 0,8 pour l'OFCE, oui, je crois.
Et c'est 0,8 pour l'OFCE, ouais. C'est ça. Et c'est 1 pour le FMI, voilà. Mais si on avait fait 0,8, encore une fois, vous prévoyez moins, tant mieux.
Ah ben quand vous avez prévu moins que la réalité, les choses se passent bien, car les recettes sont supérieures aux prévisions.
Et est-ce que c'est pas mieux pour tout le monde ?
Oui, écoutez...
Ben voilà.
Alors après, l'argument de Bruno Le Maire, deux arguments, et je vous fais réagir, Emmanuel. Hier, il a fait un petit brief après, avec quelques journalistes par téléphone. Il dit « Combien de personnes m'avaient dit que 2023 serait une catastrophe et que la récession nous guettait ? Nous terminons à 0,9, j'avais prévu 1. » Donc il a son track record de 2023 pour dire qu'il n'a pas eu tort.
Alors, j'ai relu...
Oui. Les 10 milliards, que peut-être gribouille, en tout cas, il indique, et c'est vrai parce que j'ai regardé, uniquement en agissant par décret d'annulation de crédit, unique, pas par PLFR. Mais annulation de crédit, jamais on a affiché un chiffre d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros. C'est un chiffre élevé par rapport à ce qu'on a, par le passé, généralement mis en avant.
Alors, cher Bruno Le Maire, je vous réponds dans l'ordre inverse de vos remarques. Première remarque,
maintenant, il m'a rebaptisé.
Vos 10 milliards d'économies, tout le monde sait que vous ne les ferez pas, c'est certain. Mais comme les journalistes français sont paresseux, personne n'ira vérifier à la fin de l'année. Premier point. Deuxième point.
Il m'appelle Bruno Le Maire et il dit que je suis paresseux.
Non. Gilles a une forme de naïveté, en fait.
Deuxième point sur la croissance de 2023. Oui. J'ai relu la note de conjoncture de l'INSEE concernant le second trimestre. On a fait 0,5% de croissance au second trimestre en 2023 contre 0,1% qui était prévu. C'est ça qui a sauvé les fesses de Bruno Le Maire en 2023. Pourquoi ? Parce qu'on a vendu un paquebot. et qu'il y a eu un effet sur la comptabilité nationale. On a un trimestre exceptionnel au second trimestre l'année dernière. Tous les autres indicateurs de demande interne, un rappel pour les étudiants, hein, la demande interne, consommation des ménages, FBCF, formation brute de capital fixe des entreprises, étaient déjà orientés à la baisse et ça a été la suite sur les trois trimestres de 2023. Donc,
allez, oui, oui, oui.
Sinon, c'est pas
je termine,
c'est
Je termine. Le maire a eu un gros coup de bol en 2023. Voilà, et donc il n'y a pas de quoi être fier.
C'est bon, c'est vrai que quand on voit des paquebots ou des annonces, ça va mieux. Emmanuel Comte.
Essaye, Gilles, de dialoguer, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être dans un long tunnel monologue. Non, juste peut-être deux remarques. Une première, mais très rapide, parce que je ne vais pas polémiquer avec Gilles, je suis à la fois complètement d'accord et pas du tout d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a une forme de naïveté de la part de Gilles à penser que. Mais personne n'y croit, personne n'y croyait aux prévisions de 1,4%. Il suffit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment prendre les économistes et, ou les gens, les sachants pour des naïfs. Oui, tout le monde regardait les prévisions.
À partir du moment où vous construisez un budget sur du 1,4, il y a
mais ça une s'appelle, quantité de recettes. Ça s'appelle de la politique, pardon.
Oui, non, mais.
Ça s'appelle de la politique. Mais je veux dire, c'est comme si vous. Enfin, il suffit pas de dire quelque chose pour qu'on le croie. Tout le monde regardait les statistiques au CDE. Le CDE, je relis, hein, 0,6%, Banque de France 0,9, Commission 0,9. Ça, on le savait depuis des mois. Donc, en réalité, il fait de la politique. Nous faisons de l'économie. Alors, Gilles nous dit que c'est problématique qu'il fasse de la politique. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin, il est homme politique.
Ouais,
mais c'est un peu naïf que de penser.
Le mode de fixation de la prêve de croissance, pourquoi pas moi,
Ça ne changerait pas grand-chose. Non, ça ne changerait rien au fait qu'on a une croissance très faible pour moi.
Oui.
Non, je voudrais revenir sur un point. Ce qui m'inquiète dans cette histoire de baisse des dépenses publiques, enfin, des baisses de dépenses de l'État, c'est qu'on va couper dans les politiques publiques. Mmh. Et je regardais un peu ce qui a été annoncé, notamment ma prime Rénov. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu une évaluation du plan de relance par Xavier Jaravel et l'inspection des finances il y a quelques mois.
France 2030.
Ouais, c'était vraiment intéressant le travail qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient classé toutes les primes pro-environnement en fonction de leur efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par efficacité? C'est lorsque je mets un euro de dépenses publiques, combien j'économise en carbone. Et on trouvait pour ma prime Rénov', hein, c'est à peu près 4,5 milliards, hein, je crois, de dépenses publiques.
Ce sera 4 milliards cette année.
Ouais, on trouvait un coût budgétaire de 70 euros la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une tonne de CO2 en moins, ça coûtait à l'État 70 euros. Ce qui n'est pas complètement absurde quand on voit le prix de la tonne de carbone sur le marché, c'est autour de 80 euros. Par contre, le bonus voiture propre, hein, ça revenait à peu près à 600 euros la tonne économisée. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça serait intéressant, avant de faire des coupes, sans regarder quelles coupes on fait, de bien choisir les bonnes coupes et de sélectionner surtout les dépenses publiques les moins efficaces. En clair, celles qui coûtent le plus cher lorsqu'on les compare aux économies de CO2 que l'on fait. Et en tout cas, sur ma prime Rénov', j'ai envie de dire, bah, ça semble pas être forcément la meilleure décision possible. Donc attention, on va avoir en plus une contradiction entre un objectif de court terme de baisse des dépenses publiques et un objectif louable de long terme de transition écologique.
Vous êtes le deuxième en 4 jours à nous faire des calculs scientifiques sur le côté coût-efficacité en termes de prix de la tonne de CO2.
Je lis les rapports.
Oui, à part que moi j'adore entendre ces calculs-là parce qu'ils sont très éclairants. Lionel Fontanier nous a fait un calcul redoutable jeudi dernier sur le prix de la tonne de CO2 économisée avec le leasing à 100 euros. Ah oui. C'était juste fascinant. Alors, on était bien au-delà de 600 euros la tonne. On a 55 secondes, on marque une pause, mais j'y reviens après.
Ouais, on va quand même pas reprocher à Bruno Le Maire d'être impolitique. Enfin, c'est normal. Et je ne suis pas d'accord avec la proposition de dire que l'objectif de croissance de la France soit fixé par des économistes aussi brillants soient-ils, bien évidemment. Et tous les pays font ça. Je ne veux même pas parler de la Chine, parce que là, on est dans le domaine du délire le plus complet. Mais les autres pays le font, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Enfin, et puis après, il y a une notion de fixer un cap. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, arrêtons de dire que la France, je sais pas, va se décomposer. Etc. On a des tas de forces, il y a des tas de sujets où on est très bon, on a des capacités à rebondir, etc. D'ailleurs, au passage, je vais redire ce qui a été il y a quelques temps, en 2023, il faudrait repasser les replays de nos émissions, peut-être pas spécialement moi, enfin j'en sais rien, mais début 2023, c'était la cata totale. On partait dans une inflation absolument pas maîtrisée. Enfin, voilà. Je dis pas que 2023 était extraordinaire, mais en tout cas, elle était très largement meilleure que celle qui avait été prévue début 2023 par le.
Ah, bah si, c'est. On marque une pause. Vous voulez qu'on fasse le bilan 2023
donc,
et qu'on
s'écharpe. Est-ce que c'est le rôle de la politique de fixer un cap volontariste pour dire qu'effectivement on doit atteindre 1% de croissance? Bah, bien sûr que c'est son rôle. S'il ne le fait pas lui, qui est-ce qu'il fera?